Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, il est 19h30 en temps universel, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui du mercredi 23 octobre 2019, Ekiabadou avec vous. Voici les titres. Sommet immédiat à Sotchi en Russie, une quarantaine de dirigeants africains sont reçus par Vladimir Poutine. Le Botswana tient des élections, l'ancien président Yann Kama appelle à voter contre son successeur. Les Libanais sont toujours en colère contre toute la classe politique et ils l'expriment dans les rues de Beyrouth. Au Royaume-Uni, les cadavres de 39 migrants ont été découverts dans un camion à l'est de Londres. Et puis, ne manquez pas dans 10 minutes l'information et sur les sports et l'actualité économique. Mais tout d'abord, le journal. Le président Vladimir Poutine a lancé à Sotchi son premier grand sommet russe-Afrique. Il a promis à 43 dirigeants et plus de 3000 participants de doubler les échanges commerciaux avec le continent. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Vladimir Poutine a assuré que son pays peut au minimum doubler ses échanges économiques avec l'Afrique dans les 5 prochaines années. Il a promis que Moscou va continuer à aider les pays africains en effaçant leurs dettes, affirmant que le montant total dépasse 20 milliards de dollars. Les discussions porteront aussi sur les technologies nucléaires au service du développement de l'Afrique et les minerais africains au profit des peuples d'Afrique. Dans une rencontre avec son homologue russe, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la relation entre son pays et la Russie. Vladimir Poutine a aussi rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui a demandé à Moscou de lui envoyer des armes et des véhicules blindés de transport de troupes. Il a sollicité l'intervention de la Russie pour la levée totale de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Vladimir Poutine a félicité le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son prix Nobel de la paix. Monsieur Ahmed doit s'entretenir en marge du sommet avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi sur le barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil qui inquiète beaucoup le Caire. Le sommet doit se répéter tous les 3 ans.
Nous reviendrons sur ce sommet Russie-Afrique dans notre partie magazine. Au Burkina Faso, 6 soldats ont été tués, 4 blessés au cours de 2 attaques de la commune de Barsalogo dans le nord du pays. Un couvre-feu a même été instauré dans plusieurs provinces du nord ainsi qu'une restriction de la circulation des engins motorisés. La justice ivoirienne a reporté ce mercredi au 30 octobre une décision sur une procédure en Côte d'Ivoire à propos de crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre contre l'ex-chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé. En Guinée, des centaines de femmes opposées à un 3e mandat du président Alpha Condé ont défilé à Conakry au lendemain de la condamnation des principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée depuis 1 semaine et qui ont fait au moins 10 morts. La France a annoncé ce mercredi vouloir intensifier sa coopération avec le Cameroun après les gestes d'apaisement du président Paul Biya dans la crise des régions anglophones et la libération de son principal opposant, Maurice Kamto. La France, premier investisseur étranger au Cameroun, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite dans le pays, inaugurera ce jeudi un pont financé par l'Agence française de développement sur le fleuve Youri à Douala, capitale économique du Cameroun. Quelques 6000 réfugiés centrafricains au Cameroun, justement, s'apprêtent à retourner dans leur pays. Un premier contingent de plus de 300 repart aujourd'hui à partir de la région de l'Est frontalière avec la RCA. Les précisions sur place avec notre correspondant, Jules-Emmanuel Tape.
Les localités de Gado-Badjéré et Lolo, dans l'est du pays, ont été ce mercredi les 2 points de départ volontaires des réfugiés centrafricains installés au Cameroun depuis 2014. Ils ont été convoyés du Cameroun vers les centres de transit de Belberati et Beloko, à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Batista Bamba, un jeune centrafricain, son épouse et leur enfant ont quitté le site de Gado-Badjéré pour retourner à Bangui. « Je pense que le pays est déjà stable. Ma situation financière ne me permettait pas de payer la scolarité de mon enfant chaque année. Le système du Cameroun est différent de celui de la RCA », a expliqué Bamba Batista à VOA Afrique. Pour justifier les raisons de son départ, c'est avec émotion que je quitte ce site, a expliqué pour sa part Freddy Semgonofe. Il est arrivé au Cameroun en mars 2014. Il fait partie des réfugiés rapatriés volontairement ce jour. Plus de 290 000 réfugiés centrafricains sont installés dans 3 régions du Cameroun. En juin dernier, un accord pour le retour volontaire avait été signé entre le Cameroun, la République centrafricaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Emmanuel Jolta.
La mission des Nations Unies au Congo a indiqué avoir renforcé la présence des casques bleus dans la région de Minembwe, théâtre de violences intercommunautaires depuis plusieurs semaines dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Botswana vote aujourd'hui dans des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de son histoire. Le règne sans partage du parti au pouvoir depuis l'indépendance est menacé. Précision avec Claire Morin-Gibourg.
Plus de 930 000 électeurs sont appelés aux urnes pour trancher le combat entre l'ancien président Yann Kama et son successeur Mokwesi Masisi. Yann Kama, qui a dirigé le Botswana de 2008 à 2018, a cédé il y a 18 mois les rênes du pays à son vice-président Mokwesi Masisi. Depuis, M. Kama accuse M. Masisi de dérive autoritaire. Il a claqué la porte du BDP, le Parti démocratique du Botswana, au pouvoir depuis 1966 et a appelé à voter pour l'opposition. Cette fronde fragilise la position de ce parti qui avait déjà réalisé son plus mauvais score aux élections de 2014 en tombant sous la barre des 50% des voix. Les résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine.
Au Mozambique, les résultats complets des élections générales déjà visées par de multiples accusations de fraude et d'irrégularité seront annoncés le 30 octobre, c'est ce que précise la commission électorale. En Tunisie, le juriste Raïs Saïd a prêté serment aujourd'hui. Respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes. Le nouveau président a annoncé ses priorités devant le Parlement avant de prendre ses fonctions. Un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine. L'Égypte a accepté une rencontre ministérielle avec le Soudan et l'Éthiopie à Washington au sujet du grand barrage éthiopien sur le Nil. Les modalités et le calendrier de cette rencontre ne sont pas encore dévoilées. Le Nil est vital pour les 10 pays qu'il traverse et des analystes estiment que l'absence d'accord entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte pourrait susciter un conflit entre les 3 pays avec de graves conséquences humanitaires.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a annoncé la levée des sanctions imposées mi-octobre à la Turquie après le lancement de l'offensive militaire d'Ankara contre les Kurdes en Syrie. En Syrie, justement, les forces russes avancent dans le nord-est du pays pour s'assurer du départ de toutes les forces kurdes en application d'un accord conclu entre Moscou et Ankara. Lors d'une rencontre hier à Sochi, en Russie, le président Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont conclu un mémorandum visant au retrait total des forces kurdes de la zone et au contrôle commun d'une large partie de la frontière turco-syrienne. Par ailleurs, la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN demain jeudi à Bruxelles doit permettre d'aplanir les divergences apparues au sein de l'Alliance après l'opération lancée par la Turquie. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'OTAN, M. Stoltenberg. Le président israélien Reuven Rivlin doit confier ce soir à l'ancien chef de l'armée, Benny Gantz, le soin de former le gouvernement et tenter de sortir Israël de la plus longue impasse politique de son histoire. Après les élections anticipées du 17 septembre, Benjamin Netanyahou a tenté de rassembler une coalition, mais a finalement jeté l'éponge ce lundi. Découverte macabre en Grande-Bretagne, 39 corps ont été découverts dans un camion la nuit dernière dans une zone industrielle à l'est de Londres. Le chauffeur a été arrêté. Précision avec Abdourahmane Dia.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion, découvert à environ 35 km de Londres, est venu de Bulgarie. Il était entré au Royaume-Uni le 19 octobre à Holyhead, un port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. Aucune indication n'a été apportée pour l'instant sur l'origine des victimes, ni sur le fait de savoir s'il s'agissait bien de migrants. Mais bon nombre d'entre eux tentent de rejoindre le Royaume-Uni en se cachant dans des remorques de camions ou en utilisant des embarcations de fortune pour traverser la Manche. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit horrifié par cet événement tragique. L'identification des victimes constitue la priorité numéro un, a déclaré la police. Selon la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, les services de l'immigration travailleront étroitement avec la police pour établir comment cet événement horrible a pu se produire.
Le soulèvement populaire au Liban a pris une nouvelle tournure ce mercredi avec l'apparition en masse de l'armée autour de Beyrouth, mais la foule a pu poursuivre pacifiquement sa mobilisation pour le 7e jour consécutif. Nous y reviendrons dans notre dossier magazine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Namit Talani.
L'Égypte recherche une médiation internationale pour résoudre son différend avec l'Éthiopie concernant la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil. La médiation concernera la période de remplissage du réservoir et son impact potentiel sur la part de l'Égypte de l'eau du Nil, qui est la principale source d'eau douce du pays. Les Égyptiens veulent que des observateurs des trois pays suivent la mise en œuvre du grand barrage, mais l'Éthiopie rejette ces propositions. 6 ONG ont assigné en justice le groupe Total concernant un méga-projet pétrolier en Ouganda. Une audience a été fixée au 8 janvier devant le tribunal de Nanterre. Les ONG reprochent à Total de violer la loi qui impose aux multinationales françaises d'établir un plan destiné à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Total veut forer 419 puits de pétrole dans un parc naturel ougandais pour atteindre une production d'environ 200 000 barils par jour. Pour terminer, les installations sud-africaines de Volkswagen sont en voie de produire environ 162 000 voitures et 100 000 moteurs cette année. Près des deux tiers de ces véhicules sont destinés à l'exportation. Volkswagen, qui a déjà une usine de montage au Rwanda, commencera aussi à assembler des véhicules au Ghana d'ici la fin de l'année, avec une capacité initiale de production de 5000 voitures par an. Les constructeurs automobiles mondiaux cherchent à développer des marchés en Afrique.
C'est le moment de votre page sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Grogne chez les Éthiopiens et Kenyans après le retrait du 5000 mètres de la Ligue de Diamants.
Oui, pas de 5000 mètres la saison prochaine au programme de la Ligue de Diamants. C'est la décision prise par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme dans le cadre de ses réformes. Cette décision n'est pas du tout du goût de l'Éthiopie et du Kenya, pays friands de cette discipline. Ils commettent une erreur importante et c'est surtout dommageable pour les Éthiopiens, a déclaré l'athlète éthiopien Tilaoune Bekele. Le retrait du 5000 mètres n'est pas le seul changement qui va intervenir en 2020 au programme des meetings de la Ligue de Diamants. Les courses disputées sur une distance supérieure à 3000 mètres ne seront plus au programme.
Suite et fin de la troisième journée en Ligue des Champions ce soir.
Oui, entre autres rencontres, Lille veut se lâcher et faire preuve de détermination contre Valence. À suivre aussi, Inter de Milan, Borussia Dortmund, Benfica reçoit Lyon du nouveau coach Rudy Garcia. Le Barça se déplace sur le terrain du Slavia Prague. Liverpool défie les Belges de Genk sur leurs propres installations.
Le Classico Barça-Real reporté au 18 décembre.
Et oui, la Fédération espagnole de football a annoncé avoir fixé au 18 décembre la nouvelle date du Classico FC Barcelone-Real Madrid, initialement prévu samedi, mais reporté en raison des manifestations en Catalogne. La décision a été prise, je cite, « après avoir analysé ces derniers jours les propositions des deux clubs qui ont tous deux proposé cette date », a expliqué la fédération. La Liga avait dans un premier temps proposé de faire jouer la rencontre à Madrid et d'organiser le match retour à Barcelone en mars, mais les deux clubs ont refusé. Le Classico Real Barça réunit environ 650 millions de téléspectateurs à travers le monde à chaque édition, selon les chiffres de la Liga.
Toujours en Espagne, les joueuses professionnelles iront bientôt en grève.
Près de 200 footballeuses professionnelles espagnoles ont voté à plus de 93% pour une grève illimitée dont la date n'a pas encore été fixée. Les négociations menées depuis plus d'un an entre les syndicats des joueuses et les clubs de football achoppent sur la question de leur rémunération. Elles demandent à être traitées comme leurs homologues masculins et payées au moins 12 000 euros par an. Quand les clubs leur proposent des contrats à temps partiel payés au moins 8 000 euros annuels, le football féminin est en pleine croissance en Espagne. En mars dernier, la fédération a annoncé la création d'un nouveau championnat professionnel féminin qualificatif pour les compétitions européennes.
Merci Yacouba.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, place à présent à nos dossiers du jour. Le président russe Vladimir Poutine a lancé ce mercredi son premier grand sommet Russie-Afrique, promettant un parterre de dirigeants africains de doubler dans les 5 ans les échanges commerciaux. Pour analyser, Eric Manirakiza a joint à Dakar le président de l'Amicale des diplômés de l'ex-URSS au Sénégal, Moustapha Ndiaye.
Je dirais que c'est un sommet qui est arrivé très tard, mais qui vient à son heure parce qu'aujourd'hui, l'Afrique se trouve à un tournant par rapport à son développement économique, à certaines nouvelles orientations. Donc, je pense que la coopération entre la Russie et l'Afrique, c'est quelque chose de très important. Et ce que je voudrais souligner, c'est que la Russie n'a jamais participé à la colonisation. La Russie n'a jamais participé à l'esclavage directement. Donc, ce qui fait que les relations sont beaucoup plus simples à mener. Il n'y a pas cette relation de condescendance que nos anciens colonisateurs ont par rapport à nous. Donc voilà pourquoi cette relation-là va être beaucoup plus équilibrée, sera un échange beaucoup plus dynamique entre les deux parties que juste une partie qui impose à l'autre ce qu'il faut faire.
On sait que l'Afrique achète beaucoup plus des armes en Russie. En termes d'échanges commerciaux, qu'est-ce que la Russie peut apporter que d'autres puissances déjà sur le continent n'ont pas encore donné?
Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a plus besoin d'avoir de la technologie à sa disposition. Et ça, on peut l'avoir de la Russie. L'ex-Union soviétique, les anciens pays du bloc, ont formé beaucoup d'experts africains qui tous servent leur pays aujourd'hui. Aujourd'hui, en Afrique, la coopération avec l'Occident se particulise par rapport à l'aide au développement, qui n'est pas une aide en soi, parce qu'on nous impose des orientations, on nous fixe des trucs, alors qu'aujourd'hui, les Africains ont besoin d'avoir de la technologie à leur disposition. Et on peut avoir les plus grandes technologies à disposition à partir de la Russie. Ça, c'est un point important. Côté formation, c'est pareil. Les étudiants africains peuvent recevoir des formations de très haut niveau. Si je prends l'exemple du pétrole et du gaz aujourd'hui au Sénégal, il y a des opportunités de profiter de l'expérience russe dans ce secteur. Dans le secteur agricole, les pays africains peuvent exporter beaucoup vers la Russie parce que c'est un pays où, avec l'hiver, il y a un moment où on ne produit pas. Donc, les gens ont besoin de légumes, de fruits frais. Et ça, les Africains peuvent l'exporter. Donc, je pense que la coopération entre l'Afrique et la Fédération de Russie peut être quelque chose de très, très important. Il y aura quelque chose de très innovant dans la mesure où on n'a pas cette imposition, comme j'ai dit, de l'ancien colonisateur qui veut toujours imposer ses points de vue.
Faut-il se méfier de quelque chose dans cette relation, par exemple?
Non, il n'y a absolument aucune crainte. Parce que, comme je l'ai dit, quand aujourd'hui les gens déforment les idées en disant que oui, Vladimir Poutine a des idées expansionnistes, ce n'est pas du tout ça. Je pense que M. Poutine est arrivé à un moment où il fallait restaurer un peu la notoriété de la Russie, après Boris Yeltsin. Et je pense que les gens ne comprennent pas trop dans certaines idées qu'il veut véhiculer.
Moustapha Ndiaye, président de l'Amicale des diplômés de l'ex-URSS au Sénégal.
Cette semaine, dans Washington Forum, zoom sur la jeunesse congolaise et ses défis, ses engagements, ses rêves pour l'avenir. C'est un spécial Washington Forum que nous vous proposons, une émission réalisée à Kinshasa avec notre partenaire B1, présentée par Abdourahmane Dia et Julie Sefou. L'emploi des jeunes, l'accès à une éducation de qualité pour tous, la mobilisation pour des causes citoyennes, quel message pour les nouvelles autorités congolaises? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Respect de la loi, égalité entre tous les Tunisiens, renforcement des droits des femmes, lutte antiterroriste. Le nouveau président Kais Saied a annoncé ses priorités ce mercredi en prêtant serment devant le Parlement à Tunis avant de prendre ses fonctions. Pour faire le point sur les défis qui attendent le nouveau chef de l'État tunisien, Jacques Aristide s'est entretenu avec Mourad Selami, rédacteur en chef de Dune's Voice.
Kais Saied a parlé d'instaurer un nouveau rapport entre gouvernants et gouvernés et d'essayer d'une manière concrète de réaliser les objectifs de la révolution. Pour lui, il est grand temps d'entendre et d'agir pour que ses promesses du peuple, ses vœux, ses souhaits de ce peuple en la dignité et en la liberté soient exaucés une fois qu'il est là à la tête de la République.
Justement, quels seront les premiers grands chantiers du nouveau chef de l'État ?
Ben, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le régime tunisien étant un régime parlementaire, donc le rôle du président de la République n'est pas vraiment très large. Il a précisément des prérogatives d'ordre diplomatique et sécuritaire. Il peut donner des recommandations en termes socio-économiques, mais ça s'arrête là.
Ennahda, vainqueur des législatives, veut un premier ministre issu de ce parti d'inspiration islamiste. Vous venez de parler de la marge de manœuvre du chef de l'État. Alors comment ça va se passer? Comment va-t-il composer avec Ennahda, le premier ministre qui va être nommé, et les autres partis au Parlement?
Je pense qu'il n'y aura aucun problème entre la présidence et les partis parlementaires. Le problème, c'est plutôt au niveau d'Ennahda. Ennahda n'a réuni que 52 sièges. Sur les 109 requis pour la majorité, il y a 217 au Parlement, il faut 109 pour la majorité. Ennahda n'a que 52, c'est à Ennahda de travailler pour obtenir une majorité. Mais le président va composer avec le nom qu'on va lui présenter par Ennahda comme chef de gouvernement.
Il appelle les Tunisiens à s'unir contre le terrorisme pour mettre fin, dit-il, à toutes ses racines et ses causes. La lutte antiterroriste, est-ce un défi que les Tunisiens veulent voir relever rapidement ?
La liberté de la femme, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la pauvreté, oui, c'est des questions pour lui qui sont d'extrême importance, oui, la lutte contre le terrorisme. Et parmi les défis majeurs en Tunisie, nous avons progressé en ces termes. Le danger est toujours là, mais il n'est plus aussi pressant, il n'est plus dans la ville. Il reste encore quelques maquis dans certaines montagnes de l'ouest tunisien sur les frontières algériennes. Mais en général, la lutte, nous devons rester vigilants, la Tunisie doit rester vigilante contre le terrorisme. Le président l'a assuré et il a lui aussi. D'ailleurs, ça a suscité des applaudissements dans la salle lorsqu'il a parlé de maintien du cap de cette lutte contre le terrorisme.
Mourad Selami, rédacteur en chef de Dunes Voice, joint dans la capitale tunisienne.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Soulèvement populaire au Liban a pris une nouvelle tournure avec l'apparition de l'armée autour de Beyrouth. La mobilisation pacifique s'est poursuivie pour le septième jour consécutif malgré l'annonce de réformes par le Premier ministre Saad Hariri, dont la baisse de 50% des salaires des ministres et députés. Pour des précisions sur la crise libanaise, Nathalie Barge a joint à Beyrouth la reporter Suniva Rose.
Aujourd'hui, l'armée a tenté pour la première fois depuis le début des manifestations jeudi à rouvrir les axes routiers bloqués par les protestataires. Par exemple, si maintenant on veut faire le trajet de Beyrouth à Tripoli, un trajet qui prend normalement 1h30, ça prend 4h parce que les routes sont bloquées, les autoroutes sont bloquées. Il faut faire énormément de petits allers-retours. Les magasins n'ont plus de denrées alimentaires, il n'y a plus d'argent dans les banques. Ça paralyse vraiment le pays. Alors l'armée a tenté de rouvrir ces axes. Dans certains endroits, ça a causé des blessés. Dans une banlieue au nord de Beyrouth, il y a eu entre 15 et 25 blessés selon les médias locaux. Dans certains autres endroits, il n'y a pas eu de problème, donc ça dépend vraiment. Et pour l'instant, les manifestants brandissent parfois à côté du drapeau libanais, un drapeau de l'armée, et disent qu'ils reçoivent le soutien un peu en off des soldats.
Que réclame exactement la population libanaise ?
J'ai posé la question à beaucoup de manifestants. Alors d'abord, les revendications sont vraiment pêle-mêle. C'est des années de souffrance qui s'expriment. Les gens, par exemple, depuis la fin de l'année de la guerre en 1990, n'ont pas d'électricité 24 heures sur 24. Il y a beaucoup de coupures d'eau. C'est un pays profondément inégalitaire. Mais au fur et à mesure, on a senti se cristalliser une demande pour des élections anticipées et que le gouvernement démissionne complètement dans son entièreté. 3 ou 4 ministres ont démissionné il y a quelques jours, mais les autres ministres et le Premier ministre n'ont pas suivi, mais les manifestants, quand on leur parle, sont tous très très clairs. Ils veulent que le gouvernement démissionne complètement, qu'il y ait des nouvelles élections. Et ils sont nombreux à demander un gouvernement de technocrates qui n'aurait pas de lien avec les partis politiques traditionnels qui gouvernent le pays depuis 30 ans et qui pourrait vraiment mettre en place des réformes qui seront plus justes selon eux.
Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé des réformes lundi, notamment des baisses de salaire d'officiels haut placés. Pourquoi cela
n'a-t-il pas permis aux manifestants de freiner un peu leur révolte ?
Parce que vraiment, on sent que c'est du réchauffé. Beaucoup des propositions que M. Saad Hariri a annoncées lundi sont en fait des propositions qui flottent un peu depuis la formation du gouvernement fin janvier et qui sont des propositions qui parfois ont été incluses dans le budget, parfois non, qui ont été débattues. Il y a quelques mois, quand les hommes politiques ici parlaient d'inclure cette baisse de 50% des salaires des présidents, anciens présidents, ministres, etc., ça n'avait pas été retenu parce qu'en fait, c'est une mesure très populiste et symbolique qui en fait ne va pas résoudre les problèmes financier du pays. Le Liban est l'un des pays les plus endettés au monde, derrière la Grèce et le Japon. L'une des annonces de M. Hariri qui était que le budget prévoit un déficit de 0,6% en 2020. Les manifestants se sont moqués de cette annonce parce qu'ils ne comprennent pas comment d'un coup le budget va être réduit autant alors que le pays était aussi endetté. Enfin, ça semble irréaliste et populiste.
La reporter Suniva Rose était jointe à Beyrouth. En République centrafricaine, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri à Bangui suite aux inondations après le débordement d'une rivière le week-end dernier. Les autorités locales craignent à présent une épidémie de choléra en raison de manque d'installations sanitaires. Arzuma Compaoré.
À Bangui, le district 6 n'est plus ce qu'il était. Ses habitants sont obligés de naviguer les eaux assez profondes pour se déplacer. Plus de 6000 personnes auraient perdu leur domicile des suites des inondations. Pulcheri, Siodegen, habite le quartier Kolongo.
Cela fait une semaine que nous souffrons. Nos maisons sont inondées. Nos enfants et nous-mêmes sommes très mal en point. Nous ne savons pas où aller.
Président ministre,
c'est déplorable et nous voulons que le président vienne pouvoir par lui-même.
Après que les digues de la rivière Ubangi aient éclaté la semaine dernière, les habitants de ce quartier de Bangui, habitués aux inondations saisonnières, ont vu leur situation empirer quelques jours plus tard avec de nouvelles précipitations. Kassa Moïse habite Ngba Nicolas.
Nous, Bangui Sharia, a déplacé le niveau, ça rentrait dans le quartier, ça inondait tout le monde. Il y a des maisons écroulées que vous ne pouvez même pas arriver à voir là où les maisons sont écroulées parce que c'est au milieu de l'eau. Moi-même, je suis inondé, ma maison est dans l'eau.
Au-delà des dégâts matériels, c'est une autre menace qui plane désormais sur cette partie de la ville. Lucien Molombo est le chef de district de Kolongo.
Toutes ces personnes qui habitent ici, ils ont des landries, mais ces landries là-bas ont été détruites. Hein? Les landries sont sorties du trou pour être dans l'eau. Donc moi je pense que vraiment, on est intéressé surtout le ministère de la Santé qui prenne les dispositions déjà. Hein? Et prend les dispositions. Mais maintenant il faut sensibiliser donc nous autres qui habitons dans les environs.
Pour le député local, To Sam Bensa, la pollution de l'eau de la rivière par les latrines informelles représente un réel danger pour la population.
Chez nous, en Centrafrique, et plus particulièrement dans le 6e arrondissement, il n'y a pas d'assainissement collectif. Et lorsqu'il n'y a pas d'assainissement collectif, on a ce qu'on appelle des assainissements individuels. Et l'assainissement individuel n'est pas réglementé non plus. Donc, on a le risque de contamination, de déchets avec les nappes phréatiques, mais avec les puits dans lesquels la population prend de l'eau pour pouvoir se satisfaire ses besoins. Donc, ce risque de maladie est très élevé. Le risque de paludisme est toujours là. C'est une donne permanente au niveau du 6e arrondissement. Maintenant, il faut qu'on cherche des solutions pour sortir de cette situation.
La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles intempéries.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Firmin Max Koyaweda, accompagné par Ali Abdoul. À la consolation, Zouber El Taïb. C'était Ekabadou à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
bienvenue.